Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro 565 d'Invino BFM. C'est parti, notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Nous parlerons du grand cercle de Bordeaux, de l'appellation Ladois. Nous sommes en Bourgogne, avec également Mathieu Boulet, qui est le chef du restaurant, un restaurant très sympa, qui s'appelle L'Ouvre-Bouteille, à Paris, le vignoble de Géorgie. Nous restons dans le rugby et dans le vin. Le concept Gueule de Bois, le château Romanin, et comme chaque semaine, arrêtez de rire, David Cobold, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie de Bernard Bucci, David Cobold et Philippe Aurore. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Tout va bien depuis samedi, Bernard, d'ailleurs?
Très bien, merci.
Vous étiez en forme, là, hein, du côté de Chatou pour notre émission spéciale en direct de chez Monoprix, consacrée aux foires au vin. David Cobold, dans l'agenda du vin, on commence par une direction sympathique, Chablis.
Faut pas oublier Chablis. Chablis qui a été sérieusement grêlé cette année, donc il faut aller les soutenir. 24 et 25 octobre, la fête des vins de Chablis. Vignerons, négociants vous attendent tous pour vous faire découvrir leur vin d'une dégustation qui dure le week-end, toute la journée, les deux journées. Ça ne coûte que 5 euros pour le verre, entrée gratuite pour les informations www.chablis.fr.
Allez, on part dans le sud, direction Antibes.
Donc c'est presque à l'extrémité. Alors, la fête Salon Vin et Gastronomie à Antibes avec 70 expositions de toutes régions différentes vous font découvrir leurs produits, savoir-faire. Et pour plus d'informations, il y a un numéro de portable, je ne sais pas si qui est-elle, 06...
Qui est-elle ? Pas forcément une fille.
74 69 60.
Oui, donc vous la connaissez. Alors 06 07 74 69 60. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bordeaux ?
Eh ben Bordeaux, voilà, Bordeaux au sud-ouest, Wine and Business Club, le mardi 20 octobre 2015, au restaurant Chapeau Fin, plein centre de Bordeaux, prenez le tram de préférence. Et avec le menu habituel qui mélange habilement économie, gastronomie et grand cru. Et plus d'informations sur le site winebusinessclub.com.
Enfin, les Restos du Cœur.
Oui, alors il faut soutenir ça. Je souligne, on avait déjà annoncé l'année dernière, mais les Restos du Cœur sont soutenus par l'association 12 du Cœur qui met en vente à Paris 5000 bouteilles offertes par les vignerons de partout. Vignerons, caves coopératives, négociants, c'est-à-dire des producteurs de vin, dans leur ensemble, contribuent. Et tous les bénéfices vont au Resto du Cœur. Allez-y,
c'est
acheter.
Très sympa.
Il y a un site, bien sûr, www.12, le chiffre 1 et 2, de cœur, toutattaché.com.
Merci David Cobold. Philippe Forbrac, un commentaire sur le millésime 1959, 100% bonheur.
Mais c'est vrai, il y a des millésimes qui donnent le sourire, c'est le cas celui-là quand on ouvre une bouteille de 59.
69, la semaine dernière, c'était moins excitant.
69,
quand même,
hein. En Bourgogne, c'était bien, je vous l'ai dit, en champagne, pas mal, mais effectivement, 59, c'est une raison d'être de donner le sourire.
Mais 69, il faut le rappeler, selon Serge Gainsbourg, c'est l'année sexe.
C'est vrai, mais 59, ça donne finalement beaucoup plus de plaisir. Je suis vraiment désolé par rapport au millésime. J'ai des souvenirs personnel très fort. C'est le premier millésime que j'ai goûté, par exemple, de Romanée Conti.
Oh là là, il faut nous appeler dans ces cas-là.
En
on 88, se libère pour venir avec vous.
Et je crois que nous étions avec Bernard Bertschi ensemble pour l'inauguration du chai de Ricardo Bofill à la Vitrocci de Beauvert, des impériales de la Vitrocci de 59.
C'est pareil, on peut se libérer aussi.
C'est pour moi.
Dites-donc, les mecs, je ne sais pas comment vous vivez, vous. Hein. C'est dur, votre
survie.
Vie.
C'est le job.
Voilà. Vous savez qu'il y a une crise dans le monde, tous les deux, ou pas?
Parce que, non, mais là, pour l'instant, ce sont des souvenirs. On n'a pas dit qu'on allait ça aujourd'hui. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de souvenirs, et un peu dans toutes les régions viticoles, finalement. C'est un grand millésime.
Est-ce que c'est mauvais, quelque part?
S'il en reste... franchement, il peut y avoir une bouteille qui se goûte moins bien qu'une autre.
Bernard Bucci.
Mais la potentialité du millésime est encore très intéressante.
Il a toujours été bon. Et on a toujours dit qu'il fallait le boire. Ça fait depuis que je le déguste, on me dit, le 59, il faut boire. Il faut y aller. C'est vraiment...
Et c'est toujours bon. Quelques personnalités qui sont nées en 59.
C'est vrai que les grands millésimes restent bons pendant longtemps et on peut en profiter tôt jusqu'à tard. Alors, Loïc Perron, par exemple, Vincent Lindon, John McEnroe, Pascal Légitimus.
Que les garçons aussi.
Luc Besson, exactement. Tom Novembre, Patrick Bruel. Et côté féminin, effectivement, le fameux trio légendaire Zabou, Victoria Abril et Ségolène Royal.
Oh, c'est pas mal tout ça. Alors, vous n'êtes pas dans votre liste de people. Alain Berthet, notre premier invité, qui est aussi né en 59. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Alors, vous êtes associé et fondateur du cabinet Promarque. Déjà, 59, vous avez déjà goûté dans votre vie un millésime 59 sur un petit vin, grand vin ou pas?
Oui, mon père, à ma majorité, m'a gardé une petite bouteille de Lalande Pomerol, dont j'ai gardé un souvenir ému, mais pas la marque.
Alors, vous avez un master de droit, un deuxième master de propriété industrielle, et puis une première vie de salarié pendant 6 ans et demi avant de créer votre propre cabinet en 91. L'idée, c'est quoi? C'était de devenir indépendant, de créer sa propre boîte?
Tout à fait. J'ai commencé dans des cabinets qui étaient surtout focalisés spécialisés sur le droit des brevets. Et dans ces cabinets-là, les clients marques étaient, je dirais, moins bien traités que les clients en brevets. Et j'ai décidé de créer une structure uniquement dédiée aux marques.
Donc là, il n'y a que des marques. Pro-marque. Votre offre, il y a quoi alors? Donc vous suivez les entreprises?
Marques, dessins modèles, noms de domaine, tout ce qui est signe distinctif et qui ne requiert pas une technicité particulière.
Et donc c'est des prestations qui sont récurrentes ou alors c'est ponctuel?
Alors, moins récurrente que le brevet où il faut payer des annuités chaque année, les marques se renouvellent tous les 10 ans, mais éternellement. Nous avons des marques qui ont plus d'un siècle, comme Pierrot Gourmand, que nous gérons, et voilà, une marque nous survit.
Et en cette période difficile de crise, est-ce qu'il y a plus ou moins de litiges concernant les marques, ou alors c'est flat, enfin c'est normal?
Alors c'est vrai que économiquement, lorsque les affaires sont florissantes, les marques sont lancées, il y a des lancements et donc on fait beaucoup plus d'exports et de protection à l'étranger. Et lorsque on est dans une période un peu frileuse comme actuellement, eh bien les titulaires de marques, les entreprises défendent beaucoup plus strictement leurs marques et on fait plus de contentieux.
Oui. Alors votre cabinet est basé à Paris sur les Champs-Élysées. C'est important d'être sur les Champs-Élysées, une belle adresse pour les étrangers, c'est une coquetterie?
Alors, on a commencé avenue Victor Hugo, on est passé rue Laboétie, et lorsqu'on est arrivé sur les Champs en 99, je me souviens de clients en province, puisqu'on a de beaux clients en province, qui nous ont demandé tout de suite si nos tarifs allaient augmenter.
Alors,
on les a rassurés.
Vous avez dit oui?
Non. Et en fait, non, parce qu'avec la crise immobilière sur Paris...
Donc les Champs-Élysées restent raisonnables.
Très raisonnables.
Est-ce que ça fait augmenter votre chiffre d'affaires?
Alors c'est très difficile à dire, parce que dans notre métier, l'intuition personnelle et l'expérience est quand même primordiale. Mais pour à l'étranger, lorsque je voyage à l'étranger, puisque nous déposons aussi et nous protégeons les marques pour des clients étrangers, japonais, américains et autres, lorsque je donne ma carte, the most beautiful avenue of the world, et bien entendu, ça me positionne peut-être plus haut que je ne le suis réellement.
Par rapport à la rue David Cobol, la Sarcelle, c'est quand même... Bon, alors, on a beaucoup parlé de la loi Evin et de ses limites, et parfois ses contradictions. À propos d'Internet, vous avez un avis sur le sujet?
Alors, la loi Evin, la publicité est interdite, bien entendu. Après,
Contrôlée, elle n'est pas interdite, elle est contrôlée.
Oui. Qu'est-ce que la publicité? Est-ce que avoir un site où vous vendez votre propre production est interdit? Non, puisque là, on ne fait pas de publicité, on ne fait que vendre ce que l'on produit. Donc c'est un site marchand et beaucoup de viticulteurs ont maintenant des sites marchands où vous pouvez acheter sur Internet leur production et ils ne sont pas sanctionnables au titre de la loi.
Voilà, Bucci, vous qui êtes très prêt à être problématique, vous en pensez quoi?
Eh bien, on a eu très chaud d'ailleurs parce qu'on a réussi à sauver la loi de justesse. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc Internet est libre, enfin en tout cas pour le moment, et c'est un espace de liberté.
Liberté. Alain Berthet, vous avez la chance d'habiter à Montpellier, qui est une magnifique ville. Vous adorez le vin, avec modération toujours. Deux coups de cœur pour des vins du Languedoc.
À deux, c'est pas beaucoup.
Bon, allez, 300 coups de cœur.
Deux. Alors. Petit prix d'abord, un domaine qui est situé entre Pézenas et Sépaté et Béziers.
La ville de Molière, qu'est-ce que c'est joli.
Domaine de Montmarin, 13e génération, situé à Mont-Blanc. Et là, ils ont des IGP Côte de Tongue, situés sur les versants face à Méditerranée, donc très ensoleillé. Et ils ont un blanc qui s'appelle le Grand Blanc, d'ailleurs,
Grand Blanc,
qui mérite son nom, et un rosé à des prix, je dirais...
À combien, vraiment, en vrai?
Moins de 8 euros, donc c'est vraiment...
Pour un Grand Blanc, c'est pas cher.
Non, pour un Grand Blanc, c'est pas cher.
Et vous le conseillez à boire tout de suite, ou ça peut attendre un peu?
Un blanc et rosé à boire...
Il faut y aller, quoi, dans la foulée, entre amis rapidement.
Absolument,
quoi. Deuxième coup de cœur?
Alors là, le nord du Pic Saint-Loup, Claret, c'est les contreforts des Cévennes qui commencent là, et c'est la rencontre entre un viticulteur suisse et une viticultrice de Loire qui ont acheté donc ce domaine. Et qui est tout à fait au nord, donc des écarts de température, je dirais, assez importants entre la nuit et le jour, qui favorisent un peu une douce maturation du raisin. C'est en biodynamie depuis 2005, ce sont des précurseurs, c'est eux qui d'ailleurs aident beaucoup leurs voisins à passer en bio et en biodynamie, et avec des étiquettes faites par madame, dessinées par madame, avec des noms très très jolis.
Par exemple?
Et le Petit Duc, avec un joli duc. Petit Duc, cet oiseau bien connu, et des rouges à autour de 20 euros qui sont vraiment...
Ah, ça
ne
s'est pas loupé, quoi.
Oui.
Alors, vous êtes un garçon fidèle, comme tous les hommes mariés. Vous êtes aussi fidèle à des producteurs de champagne?
Oui. Oui, oui, je cherchais le nom l'autre fois, c'est le domaine Launois, la maison Launois.
Qui, et ça fait 20 ans que vous achetez les champagnes chez eux?
Ça fait, oui, à peu près 20 ans.
20 ans, c'est incroyable.
Et 8 générations chez eux. Donc,
côté cuisine, il paraît que vous êtes champion du monde de la dorade au four, fenouil purée.
Fenouil purée, oui, alors purée, ça peut
c'est
être...
C'est pointu comme catégorie.
Oui, ça peut être...
Il y a bien les mofs sommeliers.
Purée céleri, ça peut être purée brocoli, parce que pour faire manger les légumes aux enfants, c'est difficile, donc...
Faut rien leur dire.
Voilà, non, il faut céleri et
qu'est-ce qu'on a comme vin, Philippe Forbrat, avec cette dorade qui va sortir du four de chez Alain Berthet?
Le blanc de Côte de Tonque, c'est magique. En général, les blancs, sur la dorade, le fenouil et ce genre de parfum, les blancs méditerranéens vont très bien, un blanc corse, par exemple, le patrimoine.
Et votre épouse, qu'on salue d'ailleurs, il paraît qu'elle est la plus grande spécialiste mondiale de la tarte aux figues du jardin.
Ah oui, tarte aux figues bio du jardin.
Une tarte aux figues, qu'est-ce qu'on fait, Madame Petit, qu'est-ce qu'on peut associer à une tarte aux figues de Madame Berthet, attention, pas n'importe laquelle.
Hein. J'ose à peine devant un meilleur sommelier du monde, mais enfin, en tout cas, le sucre est toujours un peu plus compliqué donc, à gérer. Donc moi, personnellement, je vais toujours vers des vins doux naturels, mais blancs. Donc ici, donc pour essayer, mais donc il faut qu'ils aient une bonne base acide aussi. Donc
plutôt du Roussillon, je suppose.
Et dans le Roussillon, parce que Alain Marty adore ça, donc c'est quand même plus facile.
D'accord. Et pour terminer, donc vous êtes plutôt à l'inverter cognac, armagnac, calvados ou tisane.
J'allais dire les trois, mon général.
Il y en a quatre. Hein.
Plutôt, non, la tisane, on oublie. Hein.
Ah, vous oubliez la tisane. Oui, c'est David Gobol. C'est bon une tisane, hein, vous écoutez anglais, oui, là.
Moi, j'ai une excellente tisane chez moi, verveine, très belle.
Depuis
très
40 ans, le même paquet. Enfin, voilà, quoi, c'est
un bon cognac.
Moi, j'ai fait pousser le verveine chez moi.
Et un bon calva.
Pousser de la verveine, c'est vrai?
Ah oui, oui. D'accord. Et même si je ne suis pas un fanatique du bio, il est bio parce que je suis trop feignant pour le traiter.
C'est bon. Donc, là, la réponse, vous préférez quoi? Cognac, armagnac, alors?
Une petite préférence pour l'armagnac.
Merci beaucoup Alain Berthet, bon vent pour votre cabinet Promarque. Nous marquons une première pause et ensuite retour chez Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour parler du grand cercle de Bordeaux.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée pour retrouver The Bernard Burchi, le monsieur vin du Figaro, qui souhaite nous présenter le grand cercle de Bordeaux. C'est quoi ça?
Ah, c'est très étrange. On parle toujours à Bordeaux donc des vins les plus réputés, l'Union des Grands Crus, les classés 1855. Donc tous ces vins qui sont objets donc d'une forte spéculation, donc pas abordables. Et d'ailleurs qui fait des manifestations donc en primeur, c'est-à-dire qu'on goûte les vins hein, donc ils sont pas en bouteille, on les revoit jamais après d'ailleurs. Ah, donc c'est ce qui est quand même un petit problème. Donc je suis un des seuls à venir regoûter les vins en bouteille. Il y a quand même 6000 négociants, des centaines de journalistes et on est moins de 5 à venir goûter les vins. Ah, c'est quand même étrange. Mais enfin en tout cas, derrière ça s'organise. Ah, donc ici donc il y avait donc le cercle de la rive droite donc ici avec le docteur Alain Reynaud qui regroupait en fait les propriétés de la rive droite, c'est-à-dire côté Saint-Émilion, Pomerol, les Côtes de Bourg, etc., qui sont nettement moins connus que les médiatiques Médoc ou Graves. Et puis du coup aussi, de la rive gauche, il y a des gens qui se sont dit, il faudrait peut-être aussi qu'on s'unisse. Et donc, il y a le grand cercle qui est formé aujourd'hui donc de 200 producteurs. Donc ici, qui sont un peu la branche dynamique donc de Bordeaux face à ceux qui sont surtout grandes naissances mais qui ont été classés qui en 1855 donc il y a très longtemps. Et là, avec d'ailleurs quelques originalités. D'abord, on goûte les vins en bouteille. Donc ici, donc
ça, c'est
à l'aveugle.
Excellent principe.
Donc ici, avec un jury international. Donc ici, et cette année, donc on a invité donc des journalistes et des sommeliers donc de l'Europe du Nord, donc Norvège, Danemark, Suède. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs s'interroger, donc, est-ce qu'ils goûtent différemment que nous? Pas du tout, d'ailleurs. Donc, l'année statistique montre que, ce qu'ils trouvent bon, nous aussi, et inversement, donc, ce qu'on trouve mauvais. Donc, il y a, donc, la dégustation. Donc, on vient de voir, donc, les 2011. Or, dans ce cercle-là, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des Bordeaux supérieurs. Donc ici, donc des vins moins réputés, donc qui valent 8 euros, 12 euros, 15 euros. Donc ici, donc 20 euros. Donc d'ailleurs, j'aurais dit, il faudrait plutôt appeler ça le cercle des vins abordables. Donc puisque, on voit d'ailleurs, évidemment, quand tout ça s'est dégusté à l'aveugle, mélangé, ce qui est pas facile. Donc ici, donc quand on a donc des Médocs derrière, donc des opulents Pomerol. Néanmoins, quand on fait le bilan, bon d'abord, on voit quand même que les grandes appellations sortent en premier. hein, c'est-à-dire que les Pomerol, les Saint-Émilion. Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait du pipeau, parce que quand il y a 20 personnes qui les sortent dans les premiers à l'aveugle, mélangés, donc dans l'état d'autres choses. Hein, donc si, donc dans le détail, hein, donc ici que dans le Médoc, ben, c'est plutôt Pauillac et Saint-Julien qui sort en premier, donc ce qui réconforte aussi. Des crues moins connues comme Fombadet, que je vous conseille beaucoup, qui est donc au milieu donc de crues classées, donc qui est un cru bourgeois qui vaut 15-20 euros, qui est donc remarquablement bien fait par une dame. Donc on sort donc tout un ensemble de vins, et puis on voit aussi que ceux qui travaillent, hein, donc ici donc dont on parle, hein, donc ici comme par exemple Reignac, hein, donc ou Aucondissa, donc ici ou la fleur cardinale, c'est-à-dire des crues dont on voit de faire des efforts, ben dans ce genre de dégustation ils sortent donc dans les premiers, hein, donc ici de manière régulière, et donc on voit qu'il y a une nouvelle élite qui se dégage. Donc ici, donc à la force du poignet, hein, c'est-à-dire donc dans ces dégustations donc à l'aveugle, et ce qui est plutôt bon signe. Hein, donc il y a, donc je vous donne par exemple donc effectivement bon Reignac qui vaut 20 euros, hein, donc ici qui a quand même dans plusieurs dégustations a battu les premiers crus classés. Hein, donc ici, donc mais là qui se met aussi sans aucun problème en dégustation à l'aveugle avec les 100 grades, si je puis dire, ce qui est quand même très honnête de leur part. Hein, donc ici, donc évidemment sortent dans les tout premiers. Un autre cru comme la fleur cardinale, donc qui est un cru donc maintenant classé de Saint-Émilion, puisque le classement a fini par le reconnaître. Hein, donc ici, donc ce sont pas des médailles d'or à Paris en 1893 ou classé en 1855. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été dégustés il y a 15 jours par un jury international. Donc c'est valable et ça vaut vraiment la peine d'y aller. Hein, donc ici voilà. Donc ça c'est le grand cercle, donc une sorte d'organisation qui se fait et qui vaut la peine d'être suivie.
Il y a un site, David Cabot, t'en prie.
Oui, comment, où est-ce qu'on peut trouver ces vins-là?
Oui, c'est ça. C'est
l'auditeur, comment il reconnaît un vin issu de ce groupe-là?
Alors, donc cette dégustation, d'une part, sert aussi à faire le ménage en interne. Hein, c'est-à-dire que donc les gens qui de manière régulière sortent mal, soit leur conseil
voilà,
ils sont virés.
De faire autre chose. Hein, donc ici, donc et puis aussi, il y a un site internet, donc très bien fait. Le classement va paraître donc dans les prochains jours. Hein, donc ici, donc alors on sort pas les derniers, mais on sort dans chaque. Moi-même, je vais les publier donc sur le site du Figaro. C'est-à-dire
d'accord.
Que je vais sortir donc les 10 premiers. David, donc c'est à la disposition de tout le monde. Hein, donc ici, et c'est vraiment des prix abordables parce que aujourd'hui, par exemple. Pénin, Bordeaux supérieur,
ah oui.
Hein, donc si,
ça vaut 5 à 7 euros.
Voilà, ça vaut 15 euros. Ouais, mais on est au niveau du top niveau. C'est-à-dire que c'est, faut pas se rendre compte. Et là, on le voit, c'est-à-dire que ça va sortir à côté des crus classés. Hein, donc ici, de 7
000. Il y a encore un peu de stock, Bernard, aujourd'hui?
Il y a encore du stock. Ouais. C'est 2011, 2010 est aujourd'hui, justement, ce sont des vins qui sont aujourd'hui disponibles à l'achat, hein, et pas des vins hypothétiques. Parce que quand on goûte, on va goûter en mars, donc les 2015, mais qui sont disponibles qu'en 2007, que 2018. En plus, ce sont des bébés, donc on les arrange pour qu'ils soient beaux ce jour-là. On sait pas trop ce qu'il y a de bouteille. Là,
ça veut dire quoi? Que certains vignerons bidouillent?
Ben,
quelques
dons bidouilleurs. En tout cas, la mariée est belle le jour de la présentation.
Ouais. C'est que des... Merci beaucoup, Madame Burchi. Vous nous rappelez donc ça s'appelle comment le cercle?
Le grand cercle.
Le grand cercle.
www.legrandcercle.com.
In Vino BFM retrouve maintenant son meilleur sommelier du monde, Philippe Orbach, pour une balade non pas dans le Bordelais, mais en terre bourguignonne pour découvrir l'appellation Ladois.
Exactement. Je vous amène à la frontière entre la Côte de Nuit et la Côte de Beaune, en plein cœur de la Côte d'Or, dans un vignoble historique, hein, puisqu'on a des vignes plantées à Ladois par, toujours par les moines. À l'époque, mais et qui ont toujours eu un intérêt parce qu'on est au pied d'un promontoire célèbre qui s'appelle la montagne de Corton. Alors ça fait rêver le
Corton. Ça fait rêver, hein.
Le Corton, Charlemagne, qui sont deux très grands vins. Et au pied, il y a trois petites appellations. Ladois, qui est la plus au nord, à côté de Corgolin, remontant sur Nuit-Saint-Georges ensuite. Ensuite, il y a Los Corton. Et puis il y a Pernant-Vergelès qui entoure et qui complète, si on veut, le dispositif en demi-cercle.
C'est une belle région. Alain Berthet, notre invité, le patron du cabinet Promar. Vous aimez les vins de Bourgogne?
Chablis, oui.
Chablis?
Oui, Chablis. Bon,
alors écoutez bien Philippe Orbach, parce que là c'est passionnant.
Mais je découvre.
Dans l'appellation Ladois, on fait essentiellement du rouge. Hein. Il y a à peu près une grosse centaine d'hectares de vignes en appellation. 80% donc en rouge, le reste en blanc. Les cépages, c'est extrêmement classique. On est sur du Pinot Noir et le grand cépage bourguignon pour le rouge. Et puis du Chardonnay pour le blanc. J'avoue que le blanc est produit en petite quantité. Et pourtant, je pense que c'est un vrai beau terroir à blanc. Il y a notamment des marnes blanches qui affleurent à certains endroits qui permettent de donner des chardonnays qui sont tout à fait remarquables. C'est une appellation
qui se hiérarchise en deux, l'appellation communale, l'Adois, et l'appellation premier cru. Il n'y a pas beaucoup de premier cru, hein. Il y a à peu près 16 hectares de premier cru en rouge et 6 hectares de premier cru en blanc. Donc ça reste relativement confidentiel. Et les vins sont souvent remarquables. Et surtout, ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent, d'un très bon rapport qualité-prix. Finalement, c'est pas une appellation très célèbre dans les grandes appellations bourguignonnes, mais c'est justement une appellation qui a son intérêt pour ça, parce que les vins sont de qualité, les vignerons s'appliquent, et les vins sont finalement accessibles.
Ils sont sympas, en plus, ces bourguignons.
La plupart, oui, exactement. Et la plupart des vins sont vendus, allez, pour l'appellation communale, une quinzaine d'euros. Et pour les premiers crus, ça dépend de la réputation du vigneron, du millésime bien entendu, et du premier cru concerné. Mais on est à peu près autour de 25 euros la bouteille, ce qui pour une bouteille de Bourgogne est relativement, entre guillemets, accessible.
La gastronomie, on peut associer
quoi ? En termes de gastronomie, il y a beaucoup de possibilités. Sur les blancs qu'on peut goûter à partir de 2-3 ans, tout ce qui est poisson, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est fromage, d'une façon générale, et Dieu sait si dans ce coin-là, il y a de très jolis fromages.
Par l'apéritif plutôt, sur un plat, vous conseillez ?
Ça peut éventuellement se concevoir à l'apéritif sur des millésimes un peu tendus. Sur des millésimes plus généreux, comme 2009 par exemple, on peut aller sur des plats principaux. Si on les attend, parce que c'est aussi une des vertus de ces vins de la montagne de Corte en général, dont font partie des vins de l'Adois, ce sont des vins qui se révèlent avec le temps. Et il m'est arrivé encore récemment de goûter un blanc d'une quinzaine d'années, avec ce côté amande, agrumes confits, qui apporte une très belle complexité, surtout beaucoup d'ampleur au niveau du palais. Et là, pour le coup, on peut aller sur des volailles, on peut aller sur des viandes blanches, on a vraiment de la structure et de la densité. Les rouges sont très agréables jeunes. J'avoue que presque un rouge, presque de l'année, enfin, pas en primeur quand même, mais au bout d'un an ou deux, en tout cas, donne beaucoup de plaisir parce que c'est extrêmement fruité. On a ce pinot qui flirte avec la framboise, le cassis, un petit peu de mûr selon les années, et qui donne déjà beaucoup de plaisir en termes de gourmandise. Là aussi, on peut les attendre un petit peu, et entre 5 et 10 ans, c'est la période presque idéale pour vraiment profiter.
D'accord,
sur leur équilibre.
Au-delà de 10 ans, quoi.
Et au-delà de 10 ans, on peut, dans certains millésimes, prendre le risque, entre guillemets, et pour aller, on va commencer à voir poindre un peu les gibiers, et notamment les gibiers à plumes, qui vont extrêmement bien, donc avec le côté frais de ces vins-là.
Vous aimez cette appellation, Bernard Rothschild?
Ah, j'aime beaucoup cette appellation. C'est une appellation un peu méconnue. D'abord, l'accueil chez les producteurs est très bon, parce que justement, comme il n'y a personne qui s'arrête, pourtant, c'est la route qui va entre la Côte de Beaune et la Côte de Nuit, c'est-à-dire qu'on passe devant tout le temps. Ah, donc ici, il y a quelques jolis restaurants, pas de très compliqués, mais donc ici, il y a même de l'hôtel. On s'arrête assez volontiers, donc une sorte de village un peu endormi, comme il faut le dire, mais vous allez chez le domaine, par exemple chez Chevalier, etc. Il y a quand même des très jolis vins.
Vous rencontrez le prince de Mérode.
Je suis d'accord avec Bernard.
Exactement. Très bien.
Alors il y a beaucoup de vignes, bien entendu. Il y a aussi beaucoup de forêts. Il y a une forêt de 1300 hectares sur la commune de Ladois-Sérigny. D'ailleurs, Ladois vient du vieux français qui s'appelle Ladwix, qui veut dire la source. Et donc, il y a quand même un potentiel hydrique intéressant qui permet aux forêts d'être en très bel état. Il y a notamment une grande fête qui s'appelle les Balades Gourmandes de Ladois, qui ont lieu depuis une quinzaine d'années maintenant, chaque année, début juillet. Donc on peut presque s'inscrire pour l'année prochaine. Et on fait à la fois la visite de la vigne, de la fameuse, du fameux coteau de Charlemagne, mais aussi de ces fameuses forêts, de cette fameuse forêt, dans laquelle pousse un chêne qui s'appelle le chêne Buffon, B-U-F-F-O-N, qui est un chêne dont l'histoire et la légende exactement dit que c'est un botaniste de l'époque de Louis XIV, et le chêne remonte à cette époque-là, on vient quasiment le vénérer. Il y a quelques bons vignerons, bien entendu.
Berlin,
on a évoqué Chevalier, père et fille d'ailleurs aujourd'hui, qui prennent le relais, le domaine Henri Dodin, le domaine Jacob, le domaine du prince de Mérode, par exemple, sont parmi les domaines intéressants, le capitaine Gagnereau, Edmond Cornu, et puis aussi quelques bons endroits pour s'arrêter, il fait bon
bien
vivre
sûr.
Aussi à Ladois. On évoquait effectivement tables et auberges, la Buissonnière, par exemple, est un très bel endroit, donc on mange avec un très bon rapport qualité-prix, et il y a un endroit où il y a une vue magnifique aussi sur tout le secteur, qui s'appelle les Terrasses de Corton, qui est un restaurant également assez remarquable avec justement une très très belle terrasse bien exposée dans laquelle on peut admirer effectivement le travail des vignerons.
Merci beaucoup Philippe Orbach, nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour accueillir Mathieu Boulet, le chef du restaurant Louvre Bouteille, et nous parlons également du concept Gueule de Bois.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold et le Vino Quiz, David.
Eh oui, donc le principe est toujours simple. La semaine dernière, par exemple, la question avec trois réponses possibles. Été, en quelle année ont été plantées les premières vignes au château de Chintres à Saumur-Champigny? A, 1575, B, 1675, C, 1775. La bonne réponse étant celle du milieu.
Donc 1675. Oui. Cette semaine, David.
Alors, nouvelle question. Combien d'hectares trouve-t-on dans le vignoble du domaine de Romana, en Provence?
Exactement.
Au Beau.
Oui.
Hein? Option A, 38. Option B, 48. Option C, 58. Donc, pour avoir la bonne réponse, vous écoutez l'émission, en principe. Et puis, vous envoyez la réponse à l'adresse mail suivante, invino@vinojeu.com.
Et le gagnant? En quelle égalité?
S'il y a des ex-échos, on tire au sort. En fait, c'est celui qui met un billet de 500 et qui gagne.
C'est absolument pas ça, mais merci David Cobol. Invino BFM accueille maintenant Mathieu Boulet, le chef du restaurant L'Ouvre-Bouteille à Paris. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, vous êtes bourguignon aussi? C'est votre papa qui était au fourneau déjà à l'époque?
Alors, mon papa a commencé en tant que charcutier avant de devenir chef de cuisine. Ma maman était dans le métier aussi. Mes arrière-grands-parents.
Vous n'avez pas le choix, quoi.
On savait déjà mon destin avant de sortir.
Avant L'Ouvre-Bouteille, vous avez travaillé dans différents restaurants?
J'ai commencé chez Jérôme Brochot à Mont-Soleil-Mines, en Saône-et-Loire. J'ai fait un passage aux hostelleries de Levernois à côté de Beaune. Ensuite, je suis monté à Paris. J'ai travaillé dans les aéroports pendant 3 ans.
Vous êtes très jeune, vous avez quel âge là?
J'ai 22 ans.
Vous avez mis des boules qui est à l'époque?
J'ai commencé à 15 ans et demi et c'est vrai que c'était pas facile, mais quand on veut, on peut.
Alors vous avez rejoint L'Ouvre-Bouteille donc en janvier dernier, l'établissement qui appartient à un confrère de Philippe Forbrac, un sommelier émérite.
Frédéric Lebel, qu'on a reçu d'ailleurs.
Exactement, ici, il y a quelques mois maintenant.
Grand amateur d'Armagnac notamment, dont il a commis un ouvrage célèbre.
Très bon bouquin sur l'Armagnac. Et donc l'établissement est situé au 150 rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement. Comment est-ce qu'on peut définir, Mathieu, votre philosophie de la cuisine?
La philosophie de la cuisine, c'est...
La vôtre, hein, pas en général, on n'est pas couché.
Pour la mienne. Oui. C'est travailler le produit. J'ai grandi en Bourgogne et il y a tous les petits producteurs qui font des produits avec un amour, vous voyez. Ils se lèvent le matin et ils n'ont pas les 35 heures, ils ne s'embêtent pas. C'est 7 jours sur 7, ils sont sur le pied de guerre, ils font leurs produits avec le cœur. Donc nous, les chefs de cuisine derrière, on doit travailler ces produits avec le cœur. Et le client doit le ressentir dans l'assiette.
Qu'est-ce qu'il y a comme plat signature quand on va au L'Ouvre-Bouteille, par exemple? C'est de la vraie nourriture, hein, c'est pas de la demi. Hein.
Le pâté en croûte, par exemple. Là, j'en ai fait un avant de partir, avec de la truffe dedans, un peu de pistache.
Oui. Le bœuf bourguignon aussi, quand même.
Ça, c'est un traditionnel à la maison. La blanquette de veau.
L'aile de raie au vinaigre de cidre, c'est bon, ça.
C'est un grand moment aussi. C'est le petit péché mignon de Frédéric, ça, l'aile de raie.
Il aime pas votre bœuf braisé aux carottes?
Il l'aime moins, quand même. Quand il y a le pâté en croûte, il est toujours présent en cuisine.
Bon, alors, vous revenez de Budapest et vous venez de terminer, donc, Mathieu, 5e mondial du concours international meilleur jeune chef rôtisseur 2015. Alors, d'abord, bravo.
Merci.
Alors, quand on rentre de Budapest, on demande une grande question, c'est les Hongroises, vont-elles bien? Non, mais c'est la première question, c'est fondamental.
Bon, est-ce que c'est
aussi joli ou pas?
Après l'émission, je vais me faire taper sur les doigts à la maison. Les Hongroises sont très jolies.
Ah, très bien. Bon, alors, deuxièmement, plus sérieusement, c'est quoi cette chaîne des rôtisseurs?
Alors, la chaîne des rôtisseurs, c'est une confrérie de rôtisseurs qui a été créée en 1248, puis elle est renée en 1950. Elle rassemble, à l'époque c'était les rôtisseurs, mais bon. Maintenant, on a les chefs de cuisine, on a les gastronomes, les sommeliers. Ils ont tous un amour de la gastronomie et des bonnes choses.
Donc ça, c'est international, si vous
voulez. Voilà, c'est international. C'est présent dans 54 pays, si je me trompe. Donc, c'est assez...
David Cobol, vous connaissez, c'est crédible, ça? Parce qu'il y a plein de clubs aussi, plus ou moins bidons. Ça, c'est sérieux, ça, non?
Non, c'est tout à fait sérieux. Mais c'est vrai, ce qu'il vient de dire, c'est aussi bien les consommateurs que les artisans.
Oui.
Moi, j'ai croisé des gens qui avaient des groupes de chaînes de rôtisseurs en Asie, en Indonésie, en Singapour, en Malaisie. C'est très important et c'est une manière de se réunir, d'échanger, de boire et de manger des bonnes choses.
Philippe Aubrac.
Ce qui est intéressant, c'est que ça rassemble à la fois des professionnels et des amateurs éclairés, certes, avec souvent de très jolies caves et des gens qui cuisinent eux-mêmes et qui se réunissent donc dans les restaurants, effectivement, de cette fameuse chaîne, puisque l'idée de la chaîne, c'est justement le parcours, la transmission et le lien entre les gens.
Et le partage.
Et le partage. Alors Mathieu, donc vous avez gagné pour la France, c'est ça?
Alors j'ai gagné l'épreuve France.
Bravo!
Oui, merci.
Et combien de candidats? Deux? Non, je plaisante. Vous étiez combien?
On était cinq.
Ah, cinq candidats, très bien.
On était sélectionnés sur dossier.
Oui.
Donc, ensuite, on s'est présenté au concours au mois de mars, au Cordon Bleu.
Très bien.
J'ai gagné cette épreuve.
Et donc, vous êtes qualifié pour le côté mondial.
Voilà.
Cinquième sur combien de pays représentés?
22.
D'accord. Alors, c'est bien, cinquième. Mais il y a 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qui a gagné, d'ailleurs?
Alors, c'est un Canadien qui a gagné. Donc, voilà, bah, félicitations à lui.
Hein. C'est dur à dire, mais il faut le dire.
Voilà, ouais, non, mais après, faut, voilà.
Est-ce que vous aviez tous le même plat à faire? Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé, on a découvert un panier mystère avant de rentrer en cuisine.
Chacun son panier ou c'était le même?
On avait tous le même.
D'accord.
Voilà. Ouais. Donc, panier mystère. Donc, pendant 6 mois, je me suis préparé à tout.
Ouais.
Mais à rien.
Ah ouais.
Et en fait, quand je suis arrivé le jour du panier,
qu'est-ce qu'il y avait dans le panier?
Ouvrons ce panier.
Alors, on ouvre le panier.
Qu'est-ce qu'il y avait dedans?
Et là, on voit de l'esturgeon, du caviar pour travailler l'entrée.
Waouh.
Des gens se disent, l'esturgeon, c'est pas le poisson le plus facile à travailler.
Bon. Ouais, c'est pas une bonne tête, mais c'est bon quand même, l'esturgeon, non?
Oui, wow. Bah après chacun ses goûts, quoi.
Bon, d'accord. On mange beaucoup en Catalogne.
Faut magnifier tout ça.
Tout à fait, c'est le travail du cuisinier. Pour le plat, on avait du chevreuil.
C'est bien ça.
Avec du foie gras. Donc du foie gras d'oie de Hongrie. Et en dessert, on avait du chocolat blanc.
C'est bien, c'est du léger tout ça. Hein.
Ah oui, ah oui.
Les Hongrois, je sais que ça mange.
Ah bah, l'Hongrois.
Ah bah, après une semaine de Hongrie, je suis rentré, je me suis mis au régime.
Bon boulage.
Beaucoup
de gibier, effectivement.
Ouais. Bon, et donc l'objectif, c'est quoi à terme? Donc là, c'est bravo pour cette 5e place mondiale, c'est quand même remarquable, surtout sur 22 pays représentés. L'étoile Michelin, elle est possible ou pas cette année?
Non.
Est-ce que vous la cherchez?
Pas du tout.
Donc, c'est pas vrai, vous la cherchez, non?
Non,
mais franchement, c'est excellent chez vous. C'est quoi? Ça restera terroir, ça reste l'ambition?
Bah, ça restera familial. Avec Frédéric, on s'entend très bien.
Vous aimez le vin aussi?
Ah, je suis un amoureux du vin. Attendez, j'ai commencé à travailler en Bourgogne.
CQFD, merci beaucoup, Mathieu, le chef du restaurant Louvre Bouteille à Paris, qu'on peut trouver donc tous les jours, hein, sauf quand tu pars en Hongrie, 150 rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement, Invino BFM, avec maintenant un nouvel invité, Emmanuel Berson, qui est cofondateur de Gueule de Bois. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Alors, tout va bien?
Au top.
Vous connaissez la Hongrie?
Ouais, je connais un petit peu la Hongrie.
Comment s'appelle-t-elle? Alors racontez-nous votre concept. Donc là, au départ, il y a deux potes, vous êtes deux potes d'enfance.
Tout à fait.
Vous étiez aux écoles élémentaires.
Tout à fait.
À vous deux, vous avez 48 ans.
C'est ça.
Et vous avez créé une boîte.
Tout à fait, Gueule de Bois.
Alors expliquez-nous.
On vient tous les deux de la région d'Angers. Et donc, dans la région d'Angers, il y a beaucoup, beaucoup de vin. Et donc, du coup, ça nous a paru évident, quand on a créé l'entreprise, en fait, de s'appeler Gueule de Bois. Pourquoi? Parce que en fait, on fait des meubles en bois. Et donc, il fallait trouver une expression pour définir ces meubles en bois. Et Gueule de Bois, ça nous a paru évident tout de suite. Un 1er janvier, c'est
normal. Et alors, votre bois, est-ce qu'il est français, Manuel? Est-ce que vous êtes un bon français?
Tout à fait. En fait, on essaie de faire travailler les artisans français. Donc, on a visité 44 entreprises avant de trouver la bonne. Et maintenant, c'est fabriqué donc dans la région d'Angers. Donc, c'est un fabricant, un artisan. Ils sont 8 dans la menuiserie. Et donc, on est assez fiers de promouvoir cet artisanat.
Des dons de cépage, c'est ça?
Tout à fait.
Ah, bah, oui. Il fallait
aller jusqu'au bout. Du coup, bah, par exemple, on a l'arbois, on a le sémillon, on a le cadarca, un cépage.
Et ça, ça correspond à chaque fois à un meuble?
Tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y avait 1500 cépages dans le monde.
Ouais.
Donc, du coup, ça nous laissait le temps de faire quelques collections.
Bon, allez, on réagit. C'est quand même vachement sympa, David. Vous qui êtes menuisier au départ, non?
Eh oui, j'ai une formation de menuisier à Venise. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais regarder ça avec intérêt. Où est-ce qu'on peut les acheter et comment?
www.gueuledebois.com.
Vente directe.
Tout à fait, parce que si on recherche Gueule de Bois tout seul sur Google,
il y a autre chose que...
c'est un petit peu plus compliqué, du coup.
Alors, est-ce que néanmoins le bois des cépages dont vous parlez rentre de temps en temps dans la composition des meubles?
Non. Ah,
c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière.
Mais vous n'appelez pas Emmanuel, David, vous.
Pardon.
Récupérer quelques cèpes pour faire quelques peut-être décorations, incrustations, etc. Ça peut
En fait, on choisit les noms de cépages en fonction du meuble. C'est-à-dire que, par exemple, l'arbois, quand on a lu la description, c'était une description d'un vin qui résistait un peu à la terre, tout ça, exactement. Mmh. Et donc, du coup, cette table, elle est vraiment forte, elle est lourde, elle est...
Mais justement, d'ailleurs, on a tapé dessus.
En tout cas, d'abord, je trouve que c'est un joli clin d'œil pour super. Le nom, parce que c'est quand même une super idée, même si c'était 1er janvier. Et quels sont les prochains cépages qui sont en dessous?
Ah, voilà,
du coup, là, on travaille sur un nouveau rocking chair tout en bois aussi, et pourquoi pas un Riesling.
Et vous avez une collection chaque année?
On a une collection tous les ans.
Bon, combien ça coûte, ça? Parce que tout ça, bois français, jeune type sympa, tout ça, ça va coûter une fortune, non?
Alors, non. Ça va de 600 euros à une table de designer, 4200 euros.
À 4200 euros. Et donc, il y a aussi des créations spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut vous consulter en vous disant, voilà, ma grand-mère veut un kinshire comme tel, ou ma belle-mère, vous faites un plus petit.
Tout à fait. En fait, on a des tables qu'on peut adapter. On va faire du sur-mesure grâce à l'artisanat français. En fait, la proximité nous permet de faire ça. En fait.
Et qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Mathieu Boulet, le chef là, de ce beau restaurant.
Travailler français, voilà, c'est, ça n'a pas de secret, c'est l'avenir.
Vous n'avez pas envie de leur confier la création de quelques meubles là, pour le restaurant, par exemple?
On va en discuter, mais je préférerais plus un pinot noir, c'est de chez moi en Bourgogne.
Et, vous avez déjà un pinot noir ou pas?
Non, pas encore, mais on a du gamay.
Il va falloir y penser.
Qu'est-ce que vous faites avec le gamay?
C'est des tables modulables, le gamay, parce qu'il y a le gamay blanc et puis il y a le gamay fréo aussi. Donc voilà, on a
le gamay de bouse.
Et gamay de bon, en tout cas, c'est très sympa. Et alors, pour terminer, il paraît que vous sortez 6 vannes marrantes par jour. Oui. Il y en a une pour maintenant ou pas, qu'on rigole un peu?
Non, pas vraiment. Là, j'ai pas prévu tout de suite de vannes, mais elles sont pas toujours marrantes. C'est pour ça qu'on essaie d'en faire des marrantes.
Mais... Allez. Donc, on nous rappelle donc, le site de Gueule de Bois pour vous rencontrer.
www.gueuledebois.design.com.
Merci Manuel et bon vent pour vos gueules de bois, tous ces projets. C'est très sympa. On marque une dernière pause et puis ensuite, on tourne chez Nicolas à Paris pour parler du château Romanin.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Franck Préau, qui est le directeur d'exploitation du château Romanin. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors racontez-nous un peu. Donc vous avez rejoint donc en 2013 ce domaine, mais alors avant vous avez fait plein de choses dans le vin. Vous avez fait quoi?
J'ai commencé par des études d'onologie.
Ça c'est bien.
À Reims, dans une belle propriété qui s'appelait Champagne Pommerie à l'époque.
D'accord.
Dirigé par LVMH, avec deux personnes incontournables pour moi, c'est Thierry Gasco et Frédéric Mérès. Thierry Gasco, chef de cave, qui est toujours en place, et Frédéric Mérès, qui est aujourd'hui le patron des Champagnes Baron Philippe Rothschild.
Et plus récemment, c'était dans un Madiran, vous étiez.
Exactement. Et j'ai fait mes dernières armes chez Alain Brumont, qui m'a appris plein de choses sur le pigeage et le tanat et les cépages de la Gascogne.
Le pigeage, Philippe Forbach, tiens, qu'est-ce que c'est que ça que le pigeage? Est-ce qu'il y a du chenin dans le pigeage?
Si vous voulez piger, si vous voulez piger le pigeage, c'est une technique qui permet d'extraire de la partie solide du raisin, et de faire migrer cette partie solide vers la partie liquide. Donc ça s'appelle le pigeage parce qu'on faisait ça au pied avant.
Ah oui,
entrait nu d'ailleurs. La tradition c'était d'être nu dans la cuve,
ouais, avec ta
de se tenir avec une barre pour pas sombrer dans la cuve, et de marcher avec un rythme assez régulier pour pouvoir faire en sorte que les raisins s'écrasent, s'éclatent, et que le jus se colore de la pigmentation
c'était
colorante.
C'était le moment technique de l'émission. Exactement. Avec la définition du pigeage. Aujourd'hui, dites-nous Franck, qui sont les propriétaires de ce château Romanin?
Ben, ils sont connus, hein, puisqu'ils étaient les anciens propriétaires de Château Montrose, monsieur et madame Charmolue, qui ont vendu Montrose en 2006 et qui ont racheté dans la foulée Château Romanin pour passer leur retraite.
Oui, dans le sud, quoi.
Dans le sud.
C'est moins humide.
Sur le chemin de Saint-Tropez, puisque monsieur et madame Charmolue avaient aimé aller chaque été à Saint-Tropez se balader. Voilà.
250 hectares au total, dont 58 en vigne. Vous êtes situé où exactement, alors, par rapport à Saint-Tropez, par exemple?
Alors, par rapport à Saint-Tropez, c'est un peu loin. En fait, on est plutôt entre Arles et Avignon.
D'accord.
Les Baux-de-Provence, l'appellation se trouvant vraiment à équidistance entre Avignon et Arles. Et nous, on est vraiment côté nord des Alpilles, côté Saint-Rémy-de-Provence. En fait, l'appellation est partagée en deux versants. Côté nord, Château Romanin, avec les Alpilles, les Saint-Rémy-de-Provence, et les Baux-de-Provence, côté sud, avec
le coin est juste magnifique, hein, Bernard Bucci, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est splendide, et en plus, il y a une très jolie cave, enfin, il y a plusieurs facteurs, quand même.
Alors, vous êtes en biodynamie, c'est par quoi? Par choix, par conviction, par marketing, par opportunité, par hasard?
Moi, j'arrive en 2013, donc, c'est pas moi qui ai fait le choix. Je pense que les gens qui étaient avant moi, le fondateur, monsieur Perrault, et un nom qui va vous parler sûrement dans les Baux-de-Provence, c'est Jean-André Charial, ont décidé en 88 de créer ce domaine, ce vignoble de toutes pièces.
Donc il n'y avait pas de vignes avant?
Alors il y a eu des vignes. Romanin a une histoire très fournie, puisque avant Jésus-Christ, en 350 avant Jésus-Christ, il y avait déjà de la vigne.
Oui.
Les Grecs, on envoyait des vins chez les Grecs, les vins de Théopolis. Après il y a eu les Romains, il y a toujours eu de la vigne qui a suivi. Et Jean-André Charial et M. Perrault se sont pris de passion pour ce château et ont créé le vignoble en 88. Donc ils étaient précurseurs, ont commencé à avoir des petites notes de biodynamie par-ci par-là, mais c'était pas encore l'aura qu'a la biodynamie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi, je suis super content parce que j'en tire les fruits.
Les fruits, oui.
Et j'ai aujourd'hui un domaine qui est mature en termes de sol, mature en termes de vignes. Alors après, ce vignoble de Provence est chaotique, parce que la Provence, les Provençaux, alors moi je suis médocain, donc je ne voyais aucune allusion avec, avec les différences de, d'appellation, mais je pense que les Provençaux étaient plutôt des paysans qui faisaient du vin, et aujourd'hui on a vraiment des vignerons qui font du vin en Provence.
Vous partagez l'avis, Madame Petit?
Moi, c'est vrai que la Provence est assez spéciale. Les Baux-de-Provence, encore plus. Hein, donc ici, c'est une toute petite appellation quand même. Il n'y a quand même pas beaucoup de producteurs.
12 propriétés.
Voilà, il y a une douzaine de producteurs. Mais à Romanin, on a quand même fait un très très beau travail depuis 88, effectivement. Voilà.
Philippe Aubrac,
ce qui explique Franck, c'est qu'effectivement, en Provence, on avait l'habitude de faire de la polyculture. Oui. Donc, ouais. Ils faisaient de la vigne aussi, ouais. Ils faisaient du vin de temps en temps, pas toujours. Beaucoup étaient amenés à la cave coopérative. C'est pour ça que les caves coopératives sont nées dans le sud de la France. Hein. Et donc, aujourd'hui, il y a, bien entendu, et les Baux est un bon exemple. Ils ne sont pas très nombreux. Vous êtes combien de viticulteurs dans les Baux?
12.
Une douzaine.
Et il y a 365 hectares.
La quasi-totalité mettent en bouteille eux-mêmes. La quasi-totalité travaille en bio ou en biodynamie, donc il y a cette unité particulière.
Une propriété qui est raisonnée, mais... Ouais.
Mais quasiment, il n'y a plus qu'une.
Voilà. David Cobol, vous connaissez les vins de cette région?
Oui, mais c'est une très belle région. Moi, la seule que j'ai visitée, c'est Domaine de Trévelan, qui n'est pas dans l'appellation, mais qui est dans la région, et qui a été un vrai précurseur, pour le coup, les vins de Eloi Durbach et ses enfants.
Franck Bréau, vous produisez les trois couleurs?
Oui, rouge, blanc, rosé.
Et les cépages, qu'est-ce qu'on trouve comme cépages?
Bah, un peu le classique de toute l'appellation de Provence, Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Rolle, Grenache Blanc, Clairette et Roussanne. Et la particularité de Romanin, c'est la counoise. C'est
un cépage, la counoise.
Ouais, cépage autochtone. Et que nous, on utilise, on en trouve un peu à Châteauneuf pour faire du rouge, mais que nous, on utilise vraiment pour faire du rosé. D'accord. Et aujourd'hui, la marque de fabrique de Château Romanin Rosé, c'est vraiment la counoise. C'est un peu atypique.
Elle Qu'est-ce nous que ça donne de particulier en goût?
Alors, ça amène vraiment d'un côté assez fruité, d'arôme très floral. Romanin bénéficie du côté nord des Alpilles, donc balayé par le Mistral. Donc, ce sont des vins toujours aériens, malgré les millésimes. On est toujours balayé par le Mistral, donc on a toujours des vins
assez plus frais.
Frais et très tendus. Et la counoise nous amène vraiment sur le rosé, un côté très aromatique, très gourmand.
En tout cas, c'est original. Ouais. Puis, si en plus, la qualité est au rendez-vous. Merci beaucoup, Franck Bréau. Bon vent pour ce. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement?
Châteauromanin.com.
On peut venir vous voir, visiter, déguster.
Avec grand plaisir.
Vous êtes toujours aussi souriant qu'aujourd'hui? Toujours aussi sympa qu'aujourd'hui?
Comment?
Vous êtes tout le temps aussi sympa qu'aujourd'hui?
Moi, j'espère.
Très bien. Une vidéo BFM retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour une découverte du vignoble de Géorgie. Géorgie, David Cobold, mais qu'est-ce que vous racontez, Géorgie?
Ben oui. Alors, je suis la trace que j'ai entamée la semaine dernière avec le Japon, c'est-à-dire des pays qui participent à la fois dans la Coupe du Monde du rugby en ce moment, et qui sont des pays viticoles. Alors, autant le Japon est un pays jeune sur le plan viticulturel, si vous avez écouté la semaine dernière, vous le saurez, autant la Géorgie, c'est le pays, ou un des pays les plus anciens, si on peut parler de pays, puisqu'on remonte à 8000 ans, c'est-à-dire 4 fois plus ancien que le premier vin en France. Le vin, d'après les dernières recherches archéologiques dans ce domaine, sont originaires des Caucases. Évidemment, il n'y avait pas de frontières à l'époque, il n'y avait pas de pays, mais cette région, que ça soit l'Abkhazie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou la Géorgie, c'est là où on trouve les premières traces de vinification, c'est-à-dire un vaisseau en terre cuite dans lequel il y avait des pépins de raisin. C'était peut-être du vinaigre, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, mais il y a eu une transformation de la matière première raisin. Et c'est pas par hasard, parce que dans cette région, c'est là où on trouve les premières sédentarisations des populations. Et comme on sait que la vigne est une plante pérenne, c'est pas un annuel comme le blé, il faut rester un certain temps pour pouvoir faire du vin. Ces deux facteurs conjoints nous laissent penser que c'est là d'où viennent les vins. Ensuite, ça a migré vers les pays des grandes civilisations, Babylone, le long du Tigre et de l'Euphrate, plus tard l'Égypte et après la Grèce et la Méditerranée. Donc on est à la naissance du vin. Et ce qui est intéressant en Géorgie, c'est que la tradition n'est jamais partie, puisque c'était le premier pays à être converti massivement à la chrétienté, c'est un pays orthodoxe. Le vin fait partie de la culture. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance du vin dans ce pays, il y a en gros 100 000 hectares de vignes. C'est un peu moins que Bordeaux, mais pas beaucoup, pour un peu moins de 4 millions d'habitants. Donc il y a du vin vraiment dans la vie des Géorgiens d'une manière très importante. On dénomme aujourd'hui 500 cépages différents en Géorgie. En France, c'est 220, 230. Alors, une partie importée, mais la très très grande majorité, c'est des cépages autochtones, ce qui est assez logique puisqu'on a un pays très ancien, donc beaucoup de biodiversité avec de la génétique qui s'est diversifiée dans les vignes à travers les millénaires. Et 500 cépages, c'est considérable. Alors, je vais essayer de vous nommer quelques-uns, mais je vous prie de m'excuser, surtout s'il y a des auditeurs géorgiens, parce que je vais écorcer les
noms. Indivo BFM fait un tabac en Géorgie.
Hein. Oui, mais alors, c'est quand même très difficile. Donc, par exemple, vous avez le Rakatsiteli, le Separavi, qui est peut-être le plus connu, hein, des cépages rouges.
Il faut dire qu'il est très planté, le Separavi.
Il est très, très largement planté. Le Mitsvane, le Kikiravi, le Kizi, le Tsukikuri, j'arrête là, le massacre, je suis désolé.
On n'en a pas à Romana. Hein.
Pas encore, mais ça sera intéressant d'expérimenter. Parce qu'il y a une adaptation naturelle qui a été faite. C'est un pays semi-tropical. Hein. La grande partie de la Géorgie, il y a 8 régions ou 6 régions avec 18 appellations certifiées, dénommées, liées ou pas à un cépage. Et donc, on a des extrêmes de température assez importants. C'est un pays où il fait très froid en hiver, très chaud en été. C'est un pays de montagne. Donc là, on a des variations selon le site qui sont très importantes. Un autre facteur qui est important à connaître en Géorgie, c'est qu'on a conservé des traditions de vinification qui remontent quasiment à 8000 ans. C'est-à-dire que beaucoup des vins géorgiens sont toujours vinifiés selon la méthode traditionnelle. Je vais vous le faire en rapide. On écrase les raisins dans un tronc d'arbre creusé. Ensuite, on verse ça dans un vaisseau en terre cuite qui est enterrée dans le sol, qui s'appelle un cuerevi. Cet vaisseau est ensuite fermé hermétiquement. Et il y a tout dedans. On met la pupe, le pépin, tout, y compris pour les blancs. Ce qui va donner des blancs assez surprenants. On ferme hermétiquement. Et on oublie ça pendant l'hiver. Ça n'explose pas parce que c'est couvert de terre. On remet de la terre, d'ailleurs, une espèce de taupinière par-dessus le bocal. On fait un bouchon en bois, en chêne. Et ensuite, on ouvre. On espère que ça n'a pas viré. Si ça n'a pas viré, parfois ça vire. On va le transférer dans un autre qu'on a nettoyé, un autre query. Et on peut le laisser quasiment indéfiniment parce qu'il y a une inertie thermique dans le sol. Alors ça donne des choses surprenantes. J'en ai goûté justement pour préparer cette émission longtemps en avance. Lors de Vinexpo, je me suis arrêté au stand des vins géorgiens et j'ai goûté des choses. Et ben, on en a dans la bouche. Hein.
Non mais c'est bon David ou c'est...
Non, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est très très différent, ce qui montre à quel point le vin est issu de culture de goût. C'est-à-dire qu'on a une autre culture de goût, ça nous surprend, il faut vraiment déplacer notre cadre pour goûter ces vins.
C'est pour ça qu'on a des bûcherons au bille.
On a des vins blancs tanniques par exemple. Des vins blancs qui peuvent être secs ou doux, mais qui ont du tanin parce qu'il y a une très longue macération avec la peau, ce qui est logique. Des vins rouges qui sont sucrés. La plupart des vins rouges sont sucrés. À mon avis, parce qu'il y a un très fort taux de sucre et tout n'est pas transformé lors de la vinification. Les levures sont tuées sous terre et ils sont morts. Et du coup, il y a du sucre.
Les pauvres levures. Ben,
mais il y a des choses remarquables.
Dans ma carrière scientifique, j'en ai goûté un certain nombre. Donc, effectivement, donc, de ces vins sucrés, des vins blancs... Donc très original, enfin costaud. Hein,
costaud,
mais ça va
costaud,
aussi bien avec la cuisine locale, qui n'est pas non plus une cuisine raffinée et légère. Hein, donc ici, il y a un gros potentiel quand même. Il faut quand même dire
énorme potentiel.
Oui. Et de revenir sur ces méthodes traditionnelles de vinification, ça fait réfléchir parce que depuis effectivement on a fait des impasses, mais c'est quand même très intéressant.
Philippe Aubrac,
il y a les tanins.
Il y a un très joli film qui est passé il n'y a pas très longtemps sur la télévision française qui raconte l'histoire de ces cuervies, et notamment des vignerons de la Loire qui ont acheté et qui ont fait transiter à travers toute l'Europe depuis la Géorgie. C'est pour faire des essais dans la Loire, donc ça serait intéressant de voir ce qu'on peut faire.
En tout cas, à l'image des piliers France. Géorgiens, on a des vins trapus.
Merci beaucoup David Cobol, ça sera le mot de la fin de ce numéro 565 d'Indivo BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, excellent week-end sur BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.
Invino avec Nespresso, créateur de grands crus de café et de solutions business pour les entreprises.